Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur RCN 90.7. Alors aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler des fourmis. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Fred Paris, qui est un grand passionné de beaucoup de choses, y compris des fourmis. Alors les fourmis, un grand sujet, on va parler de leur force, on va parler de la façon dont elles s'organisent, des points communs avec l'homme, avec les sociétés humaines, et puis d'autres aspects qui sont un peu méconnus, hein, dans un but de vulgarisation. Alors Fred, comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci, hein, merci de me recevoir encore une fois.
C'est un plaisir de te recevoir pour parler de ces passions. Alors déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, d'où te vient cette passion pour les fourmis ?
Alors bon, j'ai plusieurs centres d'intérêt, mais c'est vrai que les fourmis, alors pour ça, c'est plutôt une anecdote assez amusante, hein. Je dois avoir à peu près 5 ou 6 ans. Je suis dans le jardin de ma grand-mère. L'hiver arrive, c'est la fin de l'automne. Il n'y a plus beaucoup de bestioles. Alors je regardais là des fourmis. Puis j'ai le nez qui coule, j'éternue. Et puis, tous les enfants, j'ai le nez qui coule un peu plus long que d'habitude. Puis je me penche et j'ai la saugrenue idée d'attraper une fourmi avec cette espèce d'harpon gélatineux. Et évidemment, j'ai reniflé le tout. Donc, ma grand-mère m'a retrouvé. J'ai couru vers ma grand-mère. Elle m'a dit : t'avais l'air très, très embêté à ce moment-là. Oui, effectivement, j'ai une fourmi dans le nez.
On a souvent des fourmis dans les jambes, mais une fourmi dans le nez, je ne connaissais pas. Je connaissais pas l'expression.
Des fois, ça monte jusque dans le bras, tu vois.
Mais... ouais, voilà, fourmi dans le bras, ça, c'est plus.
Mais
ouais.
Bon, voilà, quoi. Et puis, ça révèle surtout que j'avais déjà très jeune un intérêt pour tout ce qui se passait autour de moi, notamment toutes les petites bestioles qu'il y a dans la nature, et puis même. Qui poussait autour de moi, quoi.
C'est fou cet intérêt-là, parce que parfois on voit des petits garçons, des petites filles qui, des fois écrasent les fourmis, qui ne donnent pas l'importance aux vivants. Alors d'où ça vient, je ne sais pas, mais en tout cas, comment on peut l'expliquer ?
Parce que dans notre société, il y a dans l'imaginaire des gens, dans la culture collective, des notions de bien ou de mal, de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau. De ce qui est dangereux, de ce qui n'est pas dangereux, et c'est souvent assez mal expliqué. Les insectes font les frais, à part les papillons et d'autres insectes comme ça qu'on voit tout de suite très jolis, comme les libellules, alors que c'est des tigres ailés, hein, c'est vraiment un animal carnassier. J'aimerais pas en rencontrer une qui ferait la taille d'une automobile. Mais voilà, c'est les enfants, hein, ou même les gens, des fois, pensent que l'insecte est innuisible, il est tout le temps innuisible. Il l'est des fois, mais il ne l'est pas toujours, notamment pour les fourmis. On va souvent avoir un geste, effectivement, comme ça, de toute puissance, même des fois. Hein, on est là, puis, oh, ça me gêne, ça m'énerve, puis j'écrase. Mais non, en fait, les fourmis ne sont pas toutes dénuisibles, elles sont même des fois très utiles. Mais encore une fois, c'est l'image que, dans l'espèce d'inconscient collectif qu'on porte sur les animaux qui ont plus de bras et de pattes que nous, quoi.
Alors, les fourmis, l'être humain s'intéresse aux fourmis depuis fort longtemps. Est-ce qu'il y a des écrits dans l'histoire ? À partir de quel moment on a commencé à les considérer un peu ?
Une fois que l'histoire. Alors, on a ce qu'on appelle des pétroglyphes ou des peintures rupestres qui représentent ces insectes-là, et d'autres. Donc on peut imaginer que l'homme a porté intérêt à ces animaux-là assez tôt, mais les écrits documentés, les premiers, c'est l'Antiquité. Hérodote ou Pline l'Ancien ont écrit des ouvrages sur le monde animal et font mention de ces animaux-là. Certains vont avoir une bonne réputation. Les abeilles, hein, sont encensées par le monde religieux durant le Moyen-Âge, mais sur les fourmis, il faut chercher d'un peu plus près. Hein. Mais de tout temps, quoi. Je veux dire, une fois que déjà l'intérêt de l'homme, il y a eu ce premier balbutiement de la science avec une sorte de forme de classification des animaux, puis après, bon, on a diversifié la science, elle s'est spécialisée, et maintenant l'entomologiste. L'entomologie est devenue une science à part entière, mais ça prouve bien qu'effectivement l'homme s'est posé la question depuis longtemps sur les insectes.
Et les fourmis, on va faire tout au long de cette émission le lien, le parallèle avec nos sociétés, avec l'être humain. On va se concentrer sur leurs particularités. Alors, J'ai lu quelque part que les fourmis maîtrisent l'art de la guerre. Alors, ce sont des insectes qui s'organisent en forme de société très unie, qui ont des comportements complexes. Est-ce que t'as des éléments là-dessus ?
Alors, avant d'aller plus loin, déjà, il faudrait un petit peu resituer un petit peu dans le contexte ce que sont les insectes, ce que sont les fourmis et ce qu'on sait d'elles. Hein. Donc, le monde des insectes, c'est 55% de la biomasse totale sur Terre. Hein, ça inclut même nous, quoi. C'est 85% le monde des insectes de la biomasse animale. Et c'est absolument faramineux. À l'heure actuelle, les scientifiques s'accordent pour dire qu'on ne connaît que 20% des... Je pense que c'est une statistique faite qu'avec le nombre de découvertes d'insectes, 20% des variétés d'insectes sont connues. Il nous en reste encore beaucoup à découvrir. On a à peu près 13 000 espèces de fourmis décrites.
Ah oui, justement, j'allais te demander combien d'espèces de fourmis sont connues à ce jour.
On en a 13 000, mais il existe probablement des variétés de fourmis qu'on n'a pas découvertes.
Et en quoi cette diversité-là, elle est importante ? Tu parlais de la biomasse, en quoi c'est important pour l'écosystème, le fait qu'il y ait diverses fourmis ?
Les fourmis, elles ont un travail de... Déjà, des boueurs de la nature. Elles récupèrent tout ce qui est matière organique, ça peut être aussi bien animal que végétal, elles peuvent en recycler une grande partie. Elles ont des symbioses avec certaines variétés de plantes qui permettent la prolifération. Elles ont des actions par rapport à leur alimentation, comme les fourmis qui sont granivores, qui permettent la dissémination des graines et donc favorisent l'ensemencement du sol. Donc elles ont un rôle très important à jouer dans la mesure où elles se trouvent sur les territoires sur lesquels elles sont à l'origine. Parce que quand on commence à avoir des problèmes d'invasion, d'espèces invasives qui viennent d'autres continents, c'est un peu compliqué. On en parlera peut-être un peu plus tard.
Bien sûr.
France, on a à peu près 300 espèces différentes de fourmis.
Donc sur les 13 000, on en a 300, quoi, à peu près.
Alors, pour être plus clair, en fait, on a 13 000 espèces de fourmis décrites, mais on peut estimer que la réalité, selon les scientifiques, c'est qu'il y aurait 3 à 4, voire à 5 fois plus d'espèces que 13 000.
D'accord.
Hein. Vraiment, quand on parle de 20% de connaissance des insectes, 13 000 espèces de fourmis, ben, ça veut dire qu'on n'en connaît pas beaucoup. Il en reste au moins 3 à 5 fois plus à découvrir.
Alors, sur ces aspects-là, on va y revenir, hein, on aura le temps d'aller dessus. Bon, il y a quelques particularités, hein, il faut qu'on essaye aussi d'apporter ça à nos auditeurs. Apparemment, les fourmis ont une force surhumaine. Donc tu me dis vrai ou faux, hein, sur les rumeurs qu'on entend sur les fourmis.
Les fourmis, elles ne sont pas les seules dans le monde des insectes, avec le phénomène du squelette externe et la spécification. Et depuis le temps que les insectes sont arrivés sur Terre, ils sont arrivés bien avant nous. Quelqu'un disait, les dieux ne sont pas en l'air, il faut les regarder sous nos pieds. Oui, la fourmi a beaucoup de force, mais elle n'est pas la seule, hein, dans le monde des insectes. Hein. Les spécificités, particularités que disposent les fourmis, c'est d'abord la capacité d'adaptation et d'avoir colonisé tous les territoires. L'homme l'a fait aussi, la fourmi l'a fait aussi. Elle dispose de qualités qui sont proches de celles de l'homme dans les compétences pour faire de l'élevage. Avec les pucerons ou les cochenilles, produire une agriculture, pour certaines. Donc, on le disait tout à l'heure, avec alors volontaires ou involontaires, mais les fourmis. Alors, je voulais dire aussi qu'on allait parler des fourmis, mais on ne va pas utiliser les termes barbares et les noms scientifiques de ces fourmis, parce qu'on passerait un tiers de l'émission à prononcer les noms de fourmis plutôt que de parler d'elles. Et qu'on va utiliser les termes de fourmis coupeuses de feuilles, fourmis légionnaires, fourmis vertes, fourmis bulldog, fourmis sauteuses. Voilà, tous ces termes-là, parce que, encore une fois, les fourmis sont très connues, elles sont partout, et personne ne peut aller dans un jardin sans, au bout d'une heure, rencontrer une fourmi. Donc, du coup, certaines appellations sont de vraies assez communes et sont beaucoup plus simples à utiliser, et on va se baser un peu là-dessus, pour que ce soit agréable à écouter.
Alors, tu viens de me dire quelque chose, moi, qui m'a marqué. Les fourmis sont des agricultrices, notamment, tu l'as dit, avec l'élevage des pucerons. C'est fou, ça, quand même.
Alors elles vont prendre possession d'un espace où il y a déjà des pucerons. Elles vont être capables de récolter le puceron. En fait, ces excréments sont une sorte de miel-là, hein, liquide sucré dont les fourmis raffolent. Et donc, elles vont juste en assurer, parfois, juste la protection. Hein, en éloignant les coccinelles, qui sont des fois...
Ou les larves de prédateurs, en fait, naturels.
Voilà, elles vont éloigner les prédateurs. Mais elles sont aussi capables de les mettre à l'abri si c'est nécessaire.
Donc, en temps
donc
de pluie...
Donc là, elles ont vraiment une activité pastorale, c'est-à-dire on prend les animaux, on les déplace et on les met à un endroit à l'abri, comme le ferait le fermier avec son troupeau de brebis ou son troupeau de vaches, quoi. Donc ça, c'est marrant. Ouais,
ça, c'est fou. Si nos auditeurs ont des commentaires par rapport à ça, ce serait pas mal. Donc, on parlait tout à l'heure de la force surhumaine. Alors, une fourmi peut transporter entre 10 et 50 fois son poids. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça en gros. Hein. Mais vraiment, hein, la force, c'est quelque chose de très commun dans le monde des insectes. Hein. Donc, si on s'attardait sur la force des fourmis, oui, c'est ce qui leur permet d'effectuer des tâches, déjà de se lancer dans la conquête de nourriture ou de certains travaux où il faut nécessiter vraiment une certaine force. Quand on voit la quantité de terre que déplace une colonie de fourmis Atta pour s'installer, on parle de plusieurs tonnes de terre. Hein, donc effectivement, pour un insecte qui fait entre 1 mm, parce que la fourmiata est très spécifique, spécialisée, et 1 cm, tout est ouvrier, c'est un travail colossal. On est sur des tonnes de terre. La capacité à repousser un insecte ou un ennemi ou un envahisseur qui est plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois ta taille, c'est aussi quelque chose de remarquable. Mais... on parlait de l'élevage, mais la fourmiata, c'est surtout vraiment l'agriculture. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller prélever dans la nature. Là, on parle de la fameuse fourmi coupeuse de feuilles, donc celle qu'on voit souvent hein, dans les films d'aventure. On fait toujours un gros plan sur les fourmis coupeuses de feuilles. Cette variété de fourmis se situe vraiment quasiment tout en haut de l'évolution des fourmis. Déjà parce qu'elle produit de l'agriculture, effectivement, mais elle ne la produit pas d'une manière très... C'est d'abord, elles vont couper les feuilles, ces feuilles vont être mâchées, mélangées avec une salive, elles vont être agglomérées, et elles vont être ensemencées avec un champignon. Et ce champignon va se développer, et les fourmis consomment ce champignon. Toute la colonie consomme ce champignon. Elles ne mangent pas les feuilles qu'elles récoltent. Elles mangent le champignon qu'elles font pousser sur leur récolte. Et quand une reine s'en va pour créer une autre colonie ailleurs, elle emmène avec elle un échantillon du champignon. C'est fondamental.
Tu viens de parler des reines. Alors, comment s'organisent socialement, j'ai envie de dire, les fourmis? Elles sont connues hein, pour leur organisation sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement des colonies, la répartition des tâches, par exemple, au sein de ces colonies?
Alors, chez les fourmis, vous avez des colonies actuellement, qui vivent hein, actuellement, qui sont pour certaines extrêmement archaïques, très primitives, et d'autres qui sont très évoluées. On vient parler de la fourmi Atta. La fourmi Atta donc, a des coupeuses de feuilles, des protecteuses de coupeuses de feuilles, des mini-ouvrières pour se... Elle a des soldats qui sont 10 fois plus gros. Elle a diversifié, c'est spécifié, en fait, spécialisé dans des rôles où chacun vraiment a un rôle très spécifique. Et c'est ce qui fait la force de la colonie. Mais à l'autre bout de la chaîne, vous avez des colonies qui fonctionnent à la limite presque comme une meute de loups. C'est-à-dire que vous avez une reine qui fait des petits, qui pond des œufs. Mais les autres fourmis ne sont pas incapables de le faire. Elles conservent ça, mais dans le système avec des phéromones, un système de phéromones qui neutralise la procréation ou l'envie de procréer chez les autres. Donc celles-ci, elles chassent individuellement, elles ramènent de la nourriture, elles sont plusieurs centaines dans la fourmilière, et quand il peut y avoir un push, c'est-à-dire une des ouvrières peut se sentir plus gaillarde que la reine parce qu'elle sent chez elle un signe de faiblesse, elle la provoque. Elles se battent, il n'y a pas forcément de mise à mort, mais elle peut prendre sa place. Ça, dans certaines colonies. Et cette faculté de perdre chez les ouvrières la faculté de se reproduire, ça ne se fait pas dans une... Enfin, c'est comment dire... Évidemment, il y a toujours des cas qui prouvent le contraire. Mais généralement, la nature ne donne pas quelque chose en perdant quelque chose. Donc si elle a peu de fourmis, toutes les fourmis ont potentiellement la capacité de produire des œufs. Plus la colonie va augmenter en nombre, plus elle va aller vers une colonie où il y aura, dans une société où il n'y a qu'une seule reine. Ce qui n'est pas, au final, pas forcément vrai, puisque les espèces invasives qu'on a en ce moment qui arrivent sur les territoires français, comme la fourmi à l'Argentine, ou ailleurs en Europe, la fourmi de feu, qui arrive des États-Unis, sont des colonies où il y a énormément d'individus, mais là, elles disposent de plusieurs reines. Et c'est pour ça que l'éradication de ces fourmis, espèces invasives est très compliquée à mener. Mais généralement, une fourmière où il y a peu d'individus, vous avez des reines... Alors, non, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variétés, 13 000 espèces, que chez la fourmi, les bulldogs, admettons qu'il y a une grosse fourmi qui fonctionne, comme je l'ai dit, les reines, elles peuvent être détrônées, ou si elles meurent, une autre peut prendre son rôle. Mais vous avez aussi des colonies de fourmis qui se développent extrêmement lentement, qui sont des fourmis qui sont très petites. Vous allez avoir qu'une dizaine ou une vingtaine d'ouvrières autour de la reine, mais bien qu'il y ait très peu d'individus, cette colonie ne dispose que d'une reine. Et pour que la colonie, alors il faudrait voir comment la colonie évolue et tout, mais voilà, c'est une vérité
qui
la nature elle remet toujours en question, parce que comme on dit, on découvre encore des variétés, et donc ça peut être... Vous savez qu'une colonie de fourmis, ça peut déplacer des tonnes de terre pour s'installer, mais ça peut aussi être complètement complet dans une coquille de noix. Selon la taille des fourmis, vous avez des fourmis qui font à peine un millimètre de longueur, vous avez des fourmis qui font plusieurs centimètres. Elles se sont diversifiées. Les fourmis, elles apparaissent à peu près il y a 140, 145 millions d'années. Elles sont à l'origine issues de guêpes très primitives qui ont dû trouver que le sol était plus rentable que voler en l'air. Ça développe peut-être un peu après ou un peu avant l'apparition des fleurs. Parce que les fleurs, elles apparaissent à peu près à cette période-là. La multiplication des fleurs va aussi multiplier les prédateurs. Choisir l'écosystème qui va te convenir le mieux pour assurer ta reproduction, enfin ta survie. Donc cette variété de guêpes primitives a choisi le sol. Mais encore aujourd'hui, quand on peut regarder un nid de guêpe, il n'est pas toujours en l'air ou derrière... il est des fois dans un trou dans le sol. Donc il y a un rapport, les guêpes avaient déjà un rapport avec le sol. Et cette variété a décidé de rester là. Et à partir de là, ben, les fourmis ont commencé à évoluer, à se diversifier. Et après... à occuper tous les écosystèmes. Elles sont très anciennes et
elles sont très anciennes et sont aussi vieilles que les dinosaures au final.
C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, quand on s'appuie sur le registre fossile, le registre archéologique, on a des fourmis qui étaient référencées il y a 100 millions d'années, qu'on a trouvées sur des parties qui ont 100 millions d'années. Or, il y a 100 millions d'années, la Terre n'avait pas du tout cette tête-là. On trouve les mêmes fourmis à deux points extrêmement éloignés sur la planète. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées bien avant, à l'époque où les continents, c'est partie de la Terre qui était éclatée avec le déplacement des continents, elles étaient ensemble. Et il s'agit de la Normandie et de la Thaïlande. Donc, vous voyez, donc, à un moment, ces deux parties-là étaient ensemble.
C'est éloigné.
Et 100 millions d'années plus tard, elles sont complètement éloignées l'une de l'autre et on trouve les mêmes fourmis. Donc, elles sont effectivement très anciennes, quoi.
On va se permettre une petite pause musicale. On va écouter Old Laf avec son morceau « Les fourmis ».
La raison en est incroyable. Quelqu'un me l'a raconté. J'ai des fourmis dans les jambes. Qui sait par où elles sont entrées? Faisons le chemin ensemble. C'est elles qui vont me porter. Elles peuvent soulever, dit-on, des cargaisons insensées, mais à combien elles s'y mettront pour un seul comme moi bouger? Ça fait si longtemps que je nage au milieu de mon canapé. J'ai besoin de leur courage. Tout seul, jamais je ne pourrais. J'ai des fourmis dans les jambes. Qui sait par où elles sont entrées? Faisons le chemin ensemble. C'est elles qui vont me porter. D'atomes inertes, étranges et glacés. Mais le monde a plein d'arômes. Quel
doivent m'emmener goûter. Grâce à elles, franchir sans cesse la colline, le monde après. Jusque là où le jour nous laisse croire qu'on peut le rattraper. J'ai les fourmis dans les jambes, qui sait par où elles sont entrées. Faisons le chemin ensemble, c'est elles qui vont me porter. J'ai des fourmis dans la tête qui commencent à me gratter. Un jour j'arrêterai peut-être, c'est qu'alors j'aurai trouvé.
Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est sur RCN 90.7 dans Dialectique, on vient d'écouter le morceau d'Oldelaf, Les Fourmis. Et Les Fourmis, on en parle aujourd'hui avec Frédéric Paris qui est passionné par le sujet, qui est intarissable sur les fourmis. On parle de leurs spécificités, on parle des points communs avec les êtres humains et j'espère que vous allez apprendre encore plein de choses. Alors Fred, certaines espèces de fourmis sont asexuées. Alors, plutôt que de suivre une voie de reproduction traditionnelle, certaines fourmis, comme les fourmis amazoniennes, vont se reproduire par exemple par le clonage. Elles peuvent se copier génétiquement, produire des femelles. Et puis, il y a une organisation donc, qui fait que le mâle n'est pas obligé d'aller forcément vers la reine pour se reproduire. Donc, comment ça se passe en termes de sexualité pour les fourmis et des contraceptions ?
Le mâle va pas vers la reine pour se reproduire, je vois pas comment ils vont pouvoir faire là.
Il doit y avoir
un petit trou dans le texte.
Comment ils font
suivant les colonies, une colonie a une production d'individus en fonction de ses besoins. Elle va produire des ouvrières, elle va produire des guerriers, et elle va produire bien sûr une caste pour la reproduction. Cette caste n'a, pour certaines espèces, pas vocation à rester dans la fourmilière. Donc il va y avoir ce qu'on appelle, l'écrivain Monsieur Weber qui a écrit sur les fourmis, la grande fête du printemps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vol nuptial et tous ces individus vont s'envoler dans un premier temps pour s'accoupler, les mâles et les femelles, s'accouplent en l'air. Le rôle du mâle, généralement, chez les fourmis, il n'a pas d'autre vocation, comme chez les abeilles, à procréer, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait ce travail, il meurt. Chez les abeilles, il est chassé de la colonie et puis il meurt à l'extérieur, on s'occupe pas.
Donc chez les fourmis, il meurt.
Chez les fourmis, il meurt. Il n'est pas programmé pour durer. Après, il est même possible que pour certains, il meurt parce qu'il laisse une partie de leur appareil génital à l'intérieur du corps de la femelle. Ce qui fait qu'ils sont blessés et puis voilà, il n'y a pas de... Il n'est pas programmé pour vivre plus longtemps.
Alors mon questionnement, il était, est-ce que le mâle peut se reproduire avec une autre fourmi qui a d'autres fonctions?
Alors,
ou il doit
espèces,
forcément se reproduire vers la
espèces,
reine.
Suivant les espèces, effectivement, un mâle peut se reproduire avec d'autres... alors, ce n'est pas forcément très 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 commun, mais il y a des variétés de fourmis. Alors là, évidemment, pour certaines, elles n'ont pas de nom commun, comme fourmis coupeuses de feuilles, fourmis vertes ou fourmis légionnaires. Et donc, il faudrait prononcer le nom latin, et je ne l'ai pas. Mais elles sont des fourmis assez grosses. Metallica, je crois qu'il y a un mot comme Metallica dans par rapport à la couleur. Il y a beaucoup de passionnés des fourmis par rapport à la beauté de l'animal. Et celle-ci, un mâle peut aller faire sa petite affaire avec une autre fourmi. Est-ce que ça va donner des œufs ou pas? C'est pas garanti, quoi. Mais non, le schéma n'est pas toujours le même, quoi. Dans certaines colonies, vous avez une ouvrière qui va commencer à générer et dégager des phéromones qui alertent qu'elle voudrait... elle serait assez tentée par l'expérience, quoi, de la procréation, quoi. Et à ce moment-là, elle va être... une fois qu'elle est repérée, elle devient une sorte de stimuli nerveux qui inquiète la colonie, quoi. Donc ses congénères, ils vont l'attraper, ils vont pas la tuer. Et on pourrait dire, ouais, chez les insectes, on tue. On a oublié de noter qu'on pourrait parler de l'assassinat. Mais elles vont la maintenir. Elles vont la maintenir. Et vous avez une autre fourmi qui va arriver et qui va la tapoter, qui va la palper comme ça avec ses antennes, avec ses pattes, comme ça. L'opération peut durer plusieurs heures. Et après, la fourmi n'exprime plus cette volonté de procréer. Alors je me suis tout doucement amusé que c'est une forme de contraception, hein, c'est-à-dire voilà, on va couper, même avant l'acte sexuel, l'envie de procréer. Parce que dans des colonies plus ou moins importantes, dans une colonie de plusieurs millions d'individus, ou plusieurs de centaines de milliers d'individus, ça peut dérégler la colonie, et donc c'est quelque chose auquel les fourmis dans leur organisation veillent. Quoi. Seuls ceux qui sont habilités à se reproduire et qui ont une unité à se reproduire se reproduisent. Quoi. Les autres sont contrôlés.
Et justement, en cas de
contrôle des naissances.
En cas de comment dire, d'entrave à la règle, est-ce qu'il y a assassinat ? Est-ce que les fourmis sont assassines ?
L'assassinat, il peut arriver surtout au début de la création d'une fourmilière. C'est-à-dire que parfois, chez certaines espèces, la reine doit se débrouiller seule au début. Et comme elle ne peut pas à la fois chasser et se mettre en danger et tout, donc elle va se nourrir de ses propres œufs. Et la première fourmi qui va naître de cette alimentation un peu bizarre, elle peut être des fois un petit peu pas totalement parfaite. Et donc, quand d'autres ouvrières vont arriver... Elle va commencer à essayer de faire un petit peu son travail, hein, si elle arrive à amener quelque chose à manger, voilà. Et quand la qualité des ouvrières va être meilleure et qu'elles vont être assez nombreuses, généralement, elles éliminent cet individu-là.
Alors, elles sont pas que meurtrières, elles sont aussi esclavagistes.
Ouais, vous avez des variétés de fourmis, donc on appelle la fourmi esclavagiste, on va pas prononcer le nom latin. Hein.
Alors, sans faire offense quand même à toutes les personnes. Polyergus lucidus.
Oui, d'accord. Hein ouais, voilà, tout le monde aura bien compris pourquoi
on ne s'adapte pas sur le latin. On va continuer en français.
Mais on ferait les progrès, c'est sûr. Mais alors oui, cette variété de fourmis, donc elle mène des raids. Elle est complètement dépendante de ce mode de vie, c'est donc l'esclavagiste, c'est-à-dire qu'elle est incapable, c'est une variété qui est incapable d'élever son couvain elle-même et de se nourrir même individuellement elle-même. Donc elles mènent des raids, elles attaquent une autre fourmilière, elles détruisent tout ce qui les embête et elles récupèrent tout ce qui va leur être utile, c'est-à-dire les couvains, les larves, les œufs, qui peuvent être élevés par les fourmis esclaves qu'elles ont déjà chez elles et qui vont être le nouveau contingent d'esclaves à leur service. Et cette fourmi est tellement spécialisée dans l'esclavagisme, c'est que ses attributs buccaux, notamment ses mandibules, ne lui permettent même pas de se nourrir elle-même. C'est-à-dire que vraiment, les fourmis esclaves doivent leur porter la nourriture à la bouche.
Ah oui.
D'où l'importance fondamentale de renouveler constamment le contingent d'esclaves, puisque eux-mêmes, leur reine, elle, ne produit que les mêmes fourmis. Il faut aller chercher des esclaves en permanence. Et il faut les ramener, hein, et il ne faut pas les tuer, il faut vraiment les ramener, les élever, en prendre soin. C'est une forme d'esclavagisme.
C'est dingue. Alors, il y a certaines fourmis qui sont des nageuses hors pair. Certaines espèces arrivent à survivre, en tout cas, se débrouiller dans l'eau.
Vous avez des fourmis qui savent parfaitement bien nager individuellement dans l'eau, mais vous avez aussi d'autres fourmis qui ont un comportement collectif par rapport à l'eau qui est stupéfiante, comme la fourmi de feu. Vous avez une colonie de fourmis peut être très vite mise en danger par une inondation. Et ben, la fourmi de feu, toute la colonie va se regrouper, elle va former une espèce de grosse galette comme ça, de fourmis. Et si vous appuyez dessus avec la main et que vous l'enfoncez dans l'eau, quand vous enlevez la main, elle remonte tout de suite. Dès que vous l'enfoncez dans l'eau, en fait, tous les espaces entre les fourmis se gavent d'air et ça devient une forme de bulle. Et en fait, c'est une fourmi qui peut se déplacer sur des dizaines et des centaines de kilomètres sur l'eau et qui n'est pas inquiétée par le fait d'être dans l'eau. Mais on a aussi des fourmis qui savent parfaitement bien nager et exploiter, soit pour se protéger, se déplacer... ou pour chasser le milieu aquatique. Ouais. Ça existe aussi. Ça.
On parlait tout à l'heure de l'esclavagisme chez les fourmis, mais il y a aussi une autre notion, c'est la notion d'entraide, de collectivité, hein, finalement.
Ouais. Ça, l'entraide, c'est la base de la société de fourmis. Hein. C'est le phénomène le plus comment dire, en dehors du fait que deux fourmis vont tirer un insecte ensemble ou quelque chose ensemble, c'est la torréflaxie, c'est l'échange de nourriture de la bouche à la bouche, c'est-à-dire je te tape sur l'épaule, je te dis ouais, j'ai faim et hop, tu me files à manger. Y a des colonies où cette démonstration d'entraide est extrêmement délicate et très fine. Chez une fourmi qu'on appelle la fourmi monstrueuse, alors c'est une fourmi en fait qui est très petite, hein, elle fait 5 mm de longueur, mais quand on la regarde très très près, elle a des yeux vraiment extrêmement inquiétants, très grands, et elle a deux mandibules qui s'ouvrent comme ça, comme si je mettais mes bras ouverts à 180 degrés, avec les mains pointées vers l'avant, la paume des mains, et bah, elle saisit comme ça dans ses mandibules, mais elle saisit l'insecte.
En renfermant...
Voilà, elle le saisit avec ses mandibules, et si on l'observe, elle va descendre, elle va revenir vers le groupe, et elle va aller donner cet insecte à une autre fourmi qui va délicatement le prendre et puis le faire glisser pour se nourrir. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, elles vont chercher quelque chose, elles le donnent à l'autre. Il y a une transmission comme ça de... qui est presque... Ouais, c'est presque touchant, quoi. Avec beaucoup de délicatesse en plus. Hein. Bon, il faut regarder ça de tout près, évidemment.
Il y a des vidéos qu'on peut trouver là-dessus.
Vous avez sur Internet, vous trouverez des quantités via de documentaires, mais maintenant vous avez aussi des chaînes vidéo avec des passionnés de fourmis. Élever des fourmis, c'est très joli, c'est très bien, mais c'est aussi très compliqué.
C'est quoi la complication dans le fait d'élever des fourmis ?
C'est-à-dire qu'on ne reproduit pas aussi facilement un environnement naturel comme ça, même chez soi, avec un chauffage thermique et tout ça, quoi. C'est, qu'on apprend de la part de ces garçons, de ces personnes, hommes ou femmes, hein, qui se passionnent là-dedans, et c'est que ça coûte cher parce qu'il faut vraiment investir pour assurer la vie des fourmis. Hein. Ça peut être très simple, vous avez des fourmis qui peuvent vivre dans un tube à essai, hein. Vous avez des colonies de fourmis qui sont très petites, non seulement les fourmis sont très petites, mais la colonie elle-même est très petite. Mais par contre, pour assurer la survie de cette colonie-là, il faut un certain savoir-faire, il faut une certaine science. Quoi. C'est-à-dire, le problème est toujours le même avec le monde animal. Il faut savoir ce qu'on fait quand on prend un animal à la maison. Quoi. Parce que si vous allez acheter sur Internet des fourmis balles de fusil et que vous les laissez traîner dans l'appartement parce que vous n'avez pas bien fermé la boîte et que votre gamin il se fait piquer, je crois que maman risque de ne pas être très très contente. Quoi.
Qu'est-ce qu'on risque si on se fait piquer par ce genre de fourmis
Elle porte son nom, hein, balle de fusil. Hein. C'est-à-dire que je crois que tu dois t'en rappeler toute ta vie et ça fait très très mal. Quoi. Les fourmis sont pas toutes dangereuses, mais elles ont des systèmes défensifs qui sont très très efficaces. Une fourmi peut être végétarienne, mais disposer d'un aiguillon et d'un puissant extrêmement venimeux. Quoi.
Alors justement, de quoi elles se nourrissent? Parce que tu nous parlais d'insectes, il y a des fourmis végétariennes. Qu'est-ce qu'il en est sur leur nutrition et quel type d'insectes
Les fourmis sont des animaux qui dépensent beaucoup d'énergie, donc elles ont besoin d'une énergie, de beaucoup d'énergie elles-mêmes. La nourriture la plus énergétique, c'est le sucre. Nectar, ou la matière organique. Vous avez des fourmis qui sont complètement végétariennes, granivores, ils vont manger, qui vont transformer, mâchonner, transformer, ou comme on l'a dit, comme les fourmis à tas, coupeuses de feuilles, se nourrir exclusivement d'un champignon. Vous avez des fourmis qui peuvent être végétariennes, comme Tetraponera, qui vit en symbiose avec l'arbre, le Barteria. Elles vont éliminer un individu qui va venir sur l'arbre, c'est rare, mais elles peuvent le manger. Elles peuvent le consommer. Puis vous avez des fourmis qui sont exclusivement des chasseuses, des fourmis bulldog, qui va chasser seule, mais qui est extrêmement agressive avec un poisson, un puissant venin. Hein. C'est une variété, la fourmi sauteuse, la fourmi bulldog de Tasmanie et d'Australie, qui a pris possession un peu des villes. Et ça pose beaucoup de problèmes dans ces pays-là, parce qu'une seule piqûre peut poser beaucoup de problèmes.
C'est une fourmi avec le venin, c'est ça?
Oui, à cause du venin. C'est une fourmi qui chasse seule, donc elle est puissante. Un animal qui chasse seul, il est puissant. Un animal qui chasse en bande, il peut être aussi puissant, mais c'est surtout la bande qui va être puissante. Et là, on est sur... on pourrait parler des fourmis légionnaires, donc Ellipton, c'est en Amazonie, des colonies d'un million d'individus qui vont organiser là où elles sont posées leur territoire à 360 degrés et qui vont définir 6 parts de tarte. Et tous les 3 jours, elles vont aller chasser dans une de ces parts de tarte. Celles-ci, elles peuvent vous poser beaucoup de problèmes.
Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'un si petit insecte, par exemple pour ceux et les amateurs de nature, ceux qui aiment les randonnées ou autres, camper, faire du bivouac, se dire, si minuscule insecte qui nous pique avec le venin, ça peut nous inquiéter.
Suivant les endroits, il faut être vraiment très vigilant. Ici en France, on n'a pas de variété vraiment, vraiment dangereuse. Mais pour les amateurs de voyage dans les pays tropicaux, l'Australie... la Thaïlande, les fourmis vertes, les fourmis tistrantes, et d'autres, il y a des variétés de fourmis qui possèdent des systèmes défensifs qui peuvent vraiment être désagréables, quoi. Hein. et systèmes de chasse sont collectifs ou individuels. Sur la forme collective, on disait, hein, la colonie va aller prendre son territoire sur une part de tarte, comme ça, elle va faire la razzia. Et Lipton, c'est 1 million d'individus. La fourmi Magnan, Siafou.
La fourmi Magnan, ça, j'ai connu en Afrique de l'Ouest.
Qui ne vit pas. Pardon ?
En Afrique de l'Ouest, il y a la fourmi Magnan.
Qui est une fourmi nomade aussi. Alors là, c'est 11 millions d'individus.
Et elle pique, celle-là. Hein. Moi, je l'ai connue quand
mort.
J'étais petit.
Non, elle pique pas. Par contre, elle mord. Enfin, elle a une mâchoire extrêmement puissante. Voilà. Voilà,
elle passe un peu.
Pour servir d'agrafe, pour réparer les bras. Et celles-ci sont tellement nombreuses, c'est-à-dire que le couvain et les ouvrières passent entre deux colonnes de soldats qui sont les mandibules à l'air, comme ça, extrêmement impressionnant à voir. Et là, il y a de l'enlèvement.
Ah oui, il y a de l'enlèvement maintenant.
Oui, parce qu'il y a de l'esclavagisme, il y a de l'enlèvement.
De la délinquance fourmilière.
Dans cette colonie, ils ne produisent pas de mâle. Il faut que ce soit un mâle d'ailleurs. Et il est là, le gars, il traîne dans le coin et tout. Et puis d'un coup, bah, paf, il y a une troupe d'éclaireurs qui lui tombe dessus. Alors là, ils le prennent et ils le ramènent directement à la baraque avec obligation de
procréer.
De passer dans la chambre à coucher.
Ah, bah, ça.
Et puis après, hop, ils le relâchent.
Sachant que la fourmi, le mâle peut mourrir. Hein,
attention, il n'est pas programmé. Une fois qu'il s'est accouplé, généralement, il n'est pas programmé pour vivre très très longtemps. Il y a vraiment chez les termites où le mâle accompagne la reine tout au long de sa vie. C'est un couple, pas chez les fourmis.
Alors les fourmis, là on a parlé de l'entraide, on a parlé aussi de la façon de se nourrir. Les fourmis ont deux estomacs, apparemment un estomac pour leur propre consommation et un autre pour stocker la nourriture et partager dans cette notion d'entraide avec d'autres fourmis.
Une fois qu'on sait ça, on a compris la puissance de la société. Imagine si on avait deux estomacs, un pour pouvoir nourrir un ami et un pour se nourrir soi-même, comment le monde serait. Donc, c'est sûr qu'on aurait tous une belle une serviette de table à portée de main à chaque fois. Mais
c'est clair.
mais oui, complètement. Il y a ce qu'on appelle l'estomac collectif. L'estomac qui est destiné à stocker la nourriture pour qu'elle soit redonnée et un autre qui sert à être assimilé pour faire vivre l'animal.
On a parlé d'énergie, on a parlé de protection. Ouais, on va s'octroyer une pause musicale avec Little Sims, Protect My Energy.
I got problems.
jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Little Sims, Protect My Energy, et qui doit se protéger pour garder son énergie? Eh bien, ce sont les fourmis dont on parle aujourd'hui avec Frédéric Paris, qui est passionné par le sujet. Et puis, pendant cette pause musicale, Fred, tu me parlais de cette communication qui est si importante, fondamentale, entre les fourmis. Alors, il faut savoir que les fourmis n'ont pas d'oreilles.
Alors, la communication chez les fourmis, elle se fait sur le plan olfactif. C'est-à-dire que il y a des sons ou des vibrations aussi qui rentrent en ligne de compte, mais l'essentiel de la communication, elle se fait sur la dispension d'LR de phéromones. En gros, j'ai une odeur que je peux dégager pour te dire que j'ai besoin d'aide, une odeur pour que je peux dégager pour crier alerte, une odeur pour dégager le fait que par ici il y a de la nourriture. Et en fait, c'est sur un schéma de lecture des phéromones, des odeurs que les fourmis communiquent. Elles peuvent aussi communiquer par les vibrations, mais il faut qu'elles soient sur le même arbre, sur le même espace. Une fourmi pour alerter ses congénères, vous avez des fourmis qui tapent avec leur abdomen sur la feuille. Évidemment, si l'autre fourmi qui est à un arbre plus loin va pas l'entendre. Il faut que ça soit... Mais cette forme de communication, elle existe aussi, mais c'est essentiellement les phéromones, quoi. Avec des intensités plus ou moins fortes, quoi, avec vraiment les fourmis. Le cri d'alerte va générer l'arrivée d'un bataillon entier en quelques secondes. Quoi.
Ouais, et justement, ça rentre aussi dans tout ce qui est entraide, et ça peut être utile lors de stratégies guerrières, parce que les fourmis pratiquent des stratégies guerrières.
Ouais, elles pratiquent des stratégies guerrières, celles qu'on pourrait assimiler à la chasse, mais les fourmis sont aussi une variété d'insectes qui a une stratégie de survie qui est basée sur la conquête. Et un territoire se conquérit en éliminant les adversaires. Donc les adversaires, ils peuvent être divers. Ça peut être très bien une colonie de termites, ça peut être aussi une autre colonie de fourmis de la même espèce ou d'une autre espèce. Si on prend l'exemple de Tetraponera qui s'installe dans l'arbre Barteria, cette fourmi est fondamentalement dépendante de l'arbre. Quand une raie arrive dessus, elle s'installe, elle creuse un trou, particularité des Barteria, il est creux, donc elle a quasiment une fourmilière, artificielle. Mais si quelques branches plus haut, une autre reine, Tetraponera, s'était posée quelques semaines avant sur le même arbre et qu'elle a installé sa colonie dans une autre branche, les deux colonies vont évoluer, une a un temps d'avance sur l'autre, et forcément celle qui va être la plus forte ira déloger et éliminer l'autre colonie, ça c'est souvent le cas. Et encore pas longtemps, comme je te racontais, dans le jardin d'une amie, des variétés de fourmis tout à fait communes d'ici, une énorme bataille, c'est simplement une variété une colonie de fourmis, de la même variété de l'autre, qui a décidé d'aller l'envahir. La stratégie guerrière, la guerre, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de certaines variétés de fourmis. L'expansion du territoire, et ici en France, on est très embêté avec deux variétés de fourmis. Une qui est déjà installée dans le sud de la France et une autre qui, à mon avis, ne devrait pas tarder à arriver. Celle qui est déjà installée, c'est la fourmi d'Argentine, qui a une stratégie d'expansion et qui est très petite, qui est très agressive. Donc nos grosses formica qu'on a dans les bois, là, dans les monticules d'épines de sapin, quand il y a une ou deux petites fourmis d'Argentine, elle arrive à s'en sortir, mais dès qu'il y en a une quinzaine, elles lui prennent chacun une patte, une antenne et tout, et c'est terminé. Et elles arrivent à mettre à genoux d'autres colonies de fourmis locales. Et ça pose un problème sur le plan environnemental, parce que ces fourmis-là, elles n'ont rien à faire chez nous. Mais surtout, il n'y a pas le prédateur qu'elles avaient chez elles. Et là, on a aussi la fourmi de feu qui a envahi les États-Unis et qui commence à arriver chez nous, et qui, elle, rentre partout. Je ne conseille pas d'avoir une colonie dans le bâtiment, parce que ça va être très compliqué. Quoi. C'est très attiré par le courant électrique, ça ronge les fils. Aux États-Unis, ils ont des milliards et des milliards de dollars de dépenses pour entretenir les territoires qui sont abîmés par ça. Et les seules stratégies défensives qu'on a par rapport à ces fourmis, c'est d'utiliser une petite mouche. Dieu merci, les fourmis ont des parasites. C'est pour ça que chez les fourmis Atta, coupeuses de feuilles, vous avez une fourmi qui transporte une feuille, et vous avez une petite fourmi qui est en haut de la feuille et qui surveille. Parce que les fourmis ont des parasites, et notamment chez les parasites, ce sont des petites variétés de mouches qui viennent et qui ont la capacité de venir vraiment, en une fraction de seconde, percuter la fourmi et lui injecter un œuf dans le corps. Donc, dès qu'on met ces colonies de fourmis en contact avec ces mouches-là, elles deviennent complètement en panique. Et la stratégie, c'est de travailler avec d'autres scientifiques pour installer des petites colonies, des nids de mouches à l'entrée des nids de la fourmière parasite, hein, fourmi de feu ou d'Argentine, pour neutraliser les expéditions de chasse, enfin foutre le bordel dans la colonie, pour l'affaiblir, parce que la détruire c'est très compliqué, d'autant plus que, on parlait tout à l'heure de la sexualité, enfin de la reproduction chez les fourmis, moins il y a de fourmis, plus il y a de fourmis qui peuvent éventuellement se reproduire, mais dans certaines colonies, plus il y a de fourmis, il n'y a qu'une reine. Fourmiata, il n'y a qu'une reine. Ellipton, fourmi nomade, il n'y a qu'une reine. Ou fourmi légionnaire, il n'y a qu'une reine. Siafou, Magnan, il n'y a qu'une reine. Mais chez la fourmi d'Argentine, l'Argentine et la fourmi de feu, il y a plusieurs reines. Ce qui rend la destruction de la colonie extrêmement compliquée.
Ça, c'est un point très important, hein, parce que ça crée des menaces. On va parler aussi
de point écologique, c'est très embêtant, voilà. C'est très inquiétant. Ouais.
Mais juste,
pour la biodiversité, surtout.
Voilà, avant de revenir sur ça, parce que c'est un sujet très important, juste une petite parenthèse, les addictions des fourmis. Quand j'étais petit, on me disait « Attention, si tu fais tomber du sucre, ramasse-le, parce que les fourmis sont attirées par le sucre. » Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est de la légende urbaine? Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus?
Tout ce qui est sucré est très, très énergétique. Donc, vous avez beaucoup d'animaux, les insectes n'y échappent pas, les fourmis non plus, sur l'adoration du sucre. Mais quand on parle d'addiction, ça me rappelle un phénomène qui existe, et notamment, je crois que c'est avec Bacteria et Tetraponera, dans cette symbiose entre l'arbre et la plante. Des fois, il y a quand même des trous dans les feuilles, et donc il y a quand même un parasite qui est là et qui mange des feuilles, mais comment il fait ? Y a une variété de chenilles qui produit à l'extérieur, à l'extrémité de son corps, à travers une petite glande, un liquide sucré, mais qui apparemment doit être 100 fois meilleur que le sucre ou que ce que produisent les pucerons, parce que les fourmis, une fois qu'elles y ont goûté, elles ne descendent plus de la fourmi, elles perdent tout sens de la dignité. Et une fois que la fourmi, quand ils y ont goûté, que la chenille revient, elle court vers la chenille. Enfin bon, c'est la chenille arrive à faire ce qu'elle veut avec. Aucune autre espèce n'arrive à grignoter de feuilles à part cette chenille qui corrompt complètement l'esprit des fourmis.
C'est leur drogue.
Je pense qu'elle les drogue. Enfin, le comportement des fourmis change du tout au tout, et donc forcément il y a une modification du comportement. Donc il y a forcément un effet. Alors il n'est pas psychotrope,
Est-ce qu'on sait, peut-être que des études pourraient nous le prouver, parce que son comportement change quand même assez drastiquement.
Quand
le comportement de la fourmi change lorsqu'elle a goûté assez drastiquement.
Complètement. Elle oublie sa notion de défense. Voilà. Les fourmis, vous savez, elles vont vous attraper avec les mandibules. Elles vont pas se coller à vous comme ça. La propreté dans le monde des insectes, les contacts, ils se font uniquement avec ce qu'on a, quoi. Les mandibules. Non, là, elles montent dessus. Elles sont sur un divan, quoi.
Affalées sur la chenille.
En oubliant tout ce qu'elles ont à faire d'autre.
Et donc, pour revenir sur l'aspect écologique, sur l'aspect des menaces, quel type de menaces aujourd'hui planent sur les fourmis? Quel type de changements sont à craindre, que ce soit les changements environnementaux? Et puis, quelles mesures peuvent être imaginées ou prises pour assurer la conservation des fourmis?
L'environnement, il se dégrade, hein. Donc les fourmis, du coup, elles se déplacent là où elles peuvent venir. C'est pour ça qu'on en a beaucoup dans les villes et que tout le monde en connaît. La dégradation générale des sols, de la biodiversité, des environnements, la déforestation, l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture, même certains sont utiles en ce moment, on sait que le contexte est compliqué, mais... Tout ça, ce sont des éléments qui pèsent sur le monde des fourmis. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, en plus se rajoutent des espèces invasives qui, elles, sont conquérantes. Donc elles détruisent les autres variétés de fourmis pour occuper un territoire sur lequel elles vont tout détruire, hein, de toute manière. Une réaction écologique... voilà ce qui pourrait sauver un peu les fourmis, mais elles sont effectivement... l'altération, la biodégradation, la dégradation de l'environnement terrien et de la biodiversité en général, quoi, c'est ce qui pèse sur les fourmis. La présence de nos fourmis d'Argentine fourmis de feu, quoi. C'est, qui pose un problème, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs. Les prédateurs
comment,
fourmis,
comment elles arrivent jusqu'ici, ces fourmis-là?
Les déplacements de marchandises, notamment tout, quand vous déplacez des arbres, vous allez déplacer des blocs de terre au pied des racines, les plantes, tous ces objets-là qui sont déplacés par conteneur, par bateau, elles permettent la dissémination des espèces invasives à travers le monde entier. C'est la mondialisation qui permet le fait de, que ce soit une algue qui se développe sous la coque d'un bateau et qu'on rentre en mer noire et puis qu'amène une espèce invasive ou ce qu'il y a dans les bacs à plantes, le fait qu'on ait des objets qui se trimballent d'un bout à l'autre de la planète emmène forcément des variétés d'animaux, des insectes ou de formes de vie comme ça d'un bout
et
à l'autre.
Et ça trouble l'écosystème
Oui, complètement. Complètement. C'était la perche du Nil dans le lac Victoria, que ce soit les crabes, les araignées crabes dans le nord, dans la mer du Nord, où sous des kilomètres et des kilomètres, vous ne voyez que... Alors évidemment, on pêche du crabe là-haut, ils font une fortune avec ça. On ne mange pas du crabe, on mange l'araignée de mer, une espèce invasive qui se reproduit en masse et qui défonce tout sur son territoire. Derrière, il ne reste pas grand chose. Donc les fourmis sont exposées à ça, quoi. Leur ennemi naturel, c'est bon, les tamanoirs, tous les animaux qui vont être qui peuvent consommer les fourmis.
Ça, leur prédateur, quoi.
Oui, l'homme sur certains territoires en fait partie, parce que consommer les insectes, c'est pas complètement idiot, mais de l'oraoutan en passant par le tamanoir, l'oristérops, le tatou. Et d'autres animaux encore qui consomment des fourmis. Bon, quand ces fourmis arrivent sur un territoire où il n'y a plus ces animaux-là, ça pose un problème. Quoi.
Alors on va bientôt terminer l'émission. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton approche des fourmis ou qui t'a le plus fasciné lorsque t'as appris à connaître un peu les fourmis et leur écosystème?
La vie d'une fourmi, elle se décompose en trois temps. Le premier, c'est la naissance. Elle arrive, elle va avoir des tâches à l'intérieur de la fourmilière et puis avec le temps, elle aura d'autres missions. À un moment, elle va effectuer une autre mission, donc le nettoyage, garnir les petits, puis à un moment elle va avoir droit de partir à l'aventure et d'aller à la chasse. Et dans la vie d'une fourmi, il y a cette notion d'aventure que je trouve incroyable pour un animal aussi petit, c'est de partir comme ça quand on les voit là toutes seules, minuscules, qui en fait une mission, elles sont forcenées, elles sont vraiment... Il n'y a rien qui les détournera de leur chemin, il y a une volonté de vivre, de survie, l'intérêt... La multitude aussi me passionne aussi chez les fourmis, même que bien que les fourmis bien intéressantes comportent peu d'individus, mais non, c'est une machine de la nature terriblement efficace, une force de vie qui j'espère nous succédera. Enfin, du moins, j'espère qu'elle va pas disparaître celle-là. Parce que... prend beaucoup de place et elle est très très variée. On aurait pu parler de toutes les têtes différentes que les insectes, bien que sûr. Les fourmis ont. Beaucoup de choses qu'on n'a pas
parlé. Jusqu'à quel âge, par exemple, on l'a pas dit. Elles vivent jusqu'à quel âge, les fourmis?
En général, une fourmi, ça dépasse pas une année. Une reine peut vivre très longtemps, jusqu'à 30 ans. Mais une fourmi, c'est annuaire. Enfin, annuel, quoi, je veux dire.
On a parlé du fait qu'elles peuvent servir de point de suture. Une fourmi en chute libre ne meurt pas.
Là, elles savent faire de la couture, on n'en a pas parlé. Elles utilisent, les fourmis tisserandes utilisent leurs larves comme outil, déjà, et après pour coudre des feuilles entre elles. Il y a encore tellement de choses qu'on aurait pu dire, quoi.
Ça fera l'objet d'une prochaine émission, en tout cas.
Fourmis, le tome 2.
Exactement.
Elles ont grossi.
Et puis surtout, elles sont toujours vivantes. Ça, je pense que c'est le message à retenir. Merci beaucoup, Fred. On a pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à parler des fourmis. On espère que nos auditeurs se sont régalés et c'est sûr, on a appris beaucoup beaucoup de choses, donc on te remercie pour ça. Et puis quant à nous, sur RCN dans Dialectique, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.
Merci, au revoir.
First century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls.
this white man world. We the ones chosen. So good night, cruel world. I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much. I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking. I just count the hours. Stop tripping. I'm tripping off the power. Till then, fuck that. The world's ours. Napoleon, my furs is Mongolian. My ice brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one.